Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
RMC 01 TV, François Sorel, de quoi je me mail.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans De quoi je me mêle, vous le savez, votre rendez-vous de la tech du week-end, le dimanche matin sur RMC, et dès le vendredi, vous pouvez retrouver De quoi je me mêle sur le site d'RMC en audio, la version vidéo qui vous attend sur la chaîne 01 TV, sur YouTube, sur 01tv.com et sur les box. Évidemment, je suis très heureux de vous retrouver. Au menu de ce De quoi je me mêle tout à l'heure, eh bien, on évoquera le paiement. Comment va évoluer le paiement dans les années qui viennent ? Est-ce que demain, on pourra payer simplement avec la reconnaissance faciale ? On parle aussi d'une carte bancaire avec à l'intérieur un système de reconnaissance d'empreintes digitales. J'évoquerai ce sujet avec mon invité, un porte-parole en fait du groupement carte bancaire. Et vous verrez que c'est passionnant, d'autant que, évidemment, il y a eu de nouveaux usages qui ont été créés concernant le paiement depuis la Covid-19. Et puis je vous rappelle qu'à tout moment vous pouvez nous écrire, réagir au contenu de cette émission, le hashtag DQGMM sur Twitter, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Merci d'être là et bienvenue. Et bien sûr, on commence par le club de la presse IT, Jean-Sébastien Zan, qui est là. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour François, bonjour à tous.
Ne rigole pas trop Jean-Sébastien, j'ai un peu savonné, ça arrive à
ça arrive au meilleur.
Voilà, et puis en ce moment, vous savez, il faut tout nettoyer. Donc
en plus.
On savonne. Et puis donc Emmanuel Paquette, bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Journaliste à l'Express qui nous fait l'amitié d'être là pour commenter l'actualité de la semaine dans le monde des nouvelles techno. Et on va commencer, alors autant vous dire que là c'est chargé cette semaine, on va parler d'Apple dans un instant, mais... Débutons par, sans doute, ce qu'il y a de plus intéressant et de plus important, c'est les annonces PlayStation 5, Jean-Sébastien.
Et oui, c'était la grande semaine de Sony, une semaine après Microsoft, hein, on en a parlé la semaine dernière des nouvelles Xbox. Donc deux versions disponibles de la PS5, le 19 novembre prochain, une version avec lecteur Blu-ray à 499€, une version donc Digital Edition sans lecteur Blu-ray, seulement avec des jeux dématérialisés à 399€, avec aussi de nouveaux services, hein, le service notamment PlayStation Plus Collection, qui est une sorte de catalogue de jeux PS4 qui est accessible vraiment dès le lancement de la console, accessible en ligne, et puis évidemment de nouveaux jeux, hein, parce qu'une nouvelle console sans nouveaux jeux, c'est pas terrible. Donc là on va avoir droit à Final Fantasy XVI, un nouveau Spider-Man qui avait cartonné sur la PS4, souvenez-vous. Par contre, mauvaise nouvelle au niveau des prix, hein, on voit que les tarifs sont assez élevés, mais aussi au niveau des accessoires et des jeux. Par exemple, les jeux les plus chers maintenant vont passer de 70€ à 80€, et également sur la manette DualSense, qui est 10€ plus cher que la DualShock de la PS4, donc elle coûtera 70 au lieu de 60€.
Eh bien, dites-moi.
Mais malgré tout, bah, le succès au rendez-vous, hein, parce qu'on a vu que les précommandes là, cette semaine, ont cartonné. Hein, a priori, elle est déjà en rupture un peu partout. Quand on la commande maintenant, on est à peu près sûr de ne pas l'avoir le 19 novembre. Donc, Sony a finalement bien fait de prendre ces tarifs-là, hein, puisque la demande est là.
Sony, qui est la star du jeu vidéo, rappelons que la PS4 était sortie le 29 novembre 2013.
Tout à fait.
Compte. C'est quand même incroyable de tenir comme ça.
Ouais, c'est des rythmes de 6-7 ans
une console
en général.
De jeu, alors qu'on sait que c'est le cœur et la technologie, la puissance informatique, hein, finalement, 7 ans. Console très attendue. Emmanuel, carton assuré pour Sony, ça c'est certain ?
Bah, ça semble être le cas parce que en plus ils sont en train de gagner déjà le premier round face à Microsoft. La première raison, c'est que déjà ils affichent un line-up, enfin donc des titres qui seront disponibles au lancement, notamment le Spider-Man. Bon, c'est facile, hein, pour Sony puisque oui. Sony Pictures c'est la licence Spider-Man. Donc voilà, mais Microsoft par exemple n'a pas de Halo au lancement de la Xbox, donc ils n'ont pas de gros titres attendus. Ça arrivera un petit peu plus tard. Donc c'est vrai, de ce point de vue-là, les analystes considèrent déjà que c'est Sony qui a gagné le premier round avec, ils s'attendent entre 4 et 5 millions de PlayStation 5 vendus d'ici le mois de décembre, contre 3 et 4 pour la Xbox. Donc après, on verra effectivement si les précommandes sont aussi fortes aux États-Unis qu'en Europe. Et puis, il y a quand même une grosse interrogation, que ce soit pour les deux modèles, hein, qui est sur les consoles dématérialisées, qui ont les deux, en entrée de gamme, un système de stockage SSD à autour de 550 gigas. C'est pas beaucoup quand même aujourd'hui, vu la taille des jeux. On voit pas encore les jeux, combien ils vont peser sur la PlayStation 5 et sur la prochaine Xbox. Mais en gros, se trouve en téléchargeant 4, 5, 6 jeux, on pourra saturer l'espace de stockage. Et c'est une vraie problématique. Alors, sur les hauts de gamme, on est plutôt à 850 gigas, voire 1 tera pour la Xbox. Et puis il y a un lecteur Blu-ray, donc qui peut supporter la différence. Mais pour la version entrée de gamme qui est à 300 ou 200, 299 ou 300 euros pour Xbox ou pour Sony, il y a une vraie question, je pense, sur la capacité de stockage. Donc des prix assez agressifs en entrée de gamme qu'on n'avait jamais vu, mais potentiellement des problèmes de stockage.
Alors, est-ce qu'on pourra rajouter du stockage supplémentaire ?
C'est pas dit. Hein. Je sais qu'on pouvait le faire sur la PS3 à l'époque, on pouvait changer le disque dur. Sur la PS4, je suis pas certain.
Je pense qu'ils ont trouvé un système, c'est obligé, parce qu'autrement, on va se retrouver.
Ils ont commencé à dire que sur l'entrée de gamme de la Xbox, comme on n'est pas en 4K, les jeux sont moins lourds. Et que du coup, ça serait 30% de moins que les jeux traditionnels d'une Xbox. Donc ils commencent à répondre, parce qu'ils voient bien que ça commence à susciter des interrogations.
Bien sûr.
Mais du côté de Sony, on n'a pas eu beaucoup de réponses pour l'instant, hein, donc à voir quand même.
Oui, parce que ça ne sera pas pratique si on a 15 jeux et qu'on n'a pas que 10 jeux. Est-ce qu'on peut les stocker dans le cloud? À chaque fois, il faut les réinstaller. Voilà. Après, il faut voir s'ils ne misent pas aussi sur le cloud gaming, justement, en disant, est-ce que ça ne vaut plus la peine d'installer les jeux sur la console, justement, parce qu'ils sont en ligne. Mais bon, c'est encore balbutiant comme technologie.
Alors, les jeux augmentent, bien sûr, ils seront dématérialisés, c'est ça qui est chouette, c'est que si on prend par exemple la version à 3,99, c'est ça, de la PlayStation, on n'a pas de lecteur Blu-ray, mais on pourra télécharger des jeux, connexion fibre indispensable.
Ah oui, là on est obligé d'avoir. Sinon, on va les télécharger pendant 2 nuits, 3 nuits,
voilà,
une semaine.
Est-ce que, malgré tout, Sony va rattraper son retard concernant une offre, on va dire, d'abonnement à des jeux, un peu comme Microsoft envisage de le faire?
Ils sont en train de mettre ça sur place, justement. Il y a cette collection là de jeux de grands classiques qui va certainement arriver, donc qui va être intégré à l'abonnement PS Plus. Voilà, maintenant il faut effectivement Microsoft est très à la pointe sur tout ce qui est cloud gaming. A priori il y aura une offre qui sera incluse avec les nouvelles Xbox, donc oui, là-dessus il faut clairement que Sony se mette à la hauteur, parce que c'est certainement l'avenir de ce genre d'usage, en fait.
Oui. Est-ce que Sony va rattraper son retard? Parce que Microsoft, indéniablement, a une avance là-dessus. Hein.
En fait, ce qui est un peu problématique pour Sony, c'est que Microsoft, quand ils déploient des data centers, des centres de données un peu partout sur la planète, déjà, ils ont beaucoup de cash pour le faire. Et deux, ça ne sert pas qu'aux jeux. Ça sert à les plateformes Azure, ça sert aussi au télétravail, avec Office 365. Donc en fait, c'est multi-usage et Microsoft peut amortir ces data centers avec tout un tas d'applications utilisées dans le domaine professionnel ou dans le domaine grand public, comme c'est le jeu vidéo. Pour Sony, c'est moins le cas. Hein. Sony, c'est quasiment un usage simple qui est celui du jeu, qui en plus aujourd'hui, la machine à cash de Sony, ça reste le jeu vidéo, parce que sur les téléviseurs, les marges, elles ne sont pas énormes.
Oui, les smartphones encore moins.
Les smartphones, ils ne sont même pas dans le top 3 des plus gros vendeurs de téléphonie mobile. Donc on voit qu'effectivement, et puis bon, on ne parle plus trop des Vaio qui ont été cédés, je crois, en partie de chez Sony. C'est vrai qu'aujourd'hui, la machine à cash de Sony, c'est le jeu, et c'est vrai que pour eux, à chaque nouveau cycle de jeu, c'est un pari extrêmement risqué parce que c'est la base de leur modèle économique. Chez Microsoft, c'est un des modèles économiques parmi d'autres. Donc, du coup, oui, effectivement, il y a une pression très forte chez Sony. Ils ne peuvent pas se rater pour le coup.
Et puis, c'est étonnant que Sony ne fasse pas un service groupé, on va dire, avec, par exemple, Sony Music, Sony Pictures. Et ils ont des tonnes et des tonnes de contenu en plus de jeux vidéo. Mmh. Ça pourrait être un abonnement jeux vidéo, musique, film, série. Mmh. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'ils n'exploitent pas. Il y a toujours un peu de mal chez Sony de travailler entre les différentes branches.
On se rend compte qu'il y a des Sido, hein,
tout à fait.
Chez Sony, et comme tu le disais,
c'est une organisation très japonaise et ils n'ont pas l'habitude de travailler les uns avec les autres.
Mais Sony Pictures, par exemple, aux États-Unis, a toujours été laissé tout seul. Hein.
Tout à fait.
C'est autonome, c'est à Hollywood. D'ailleurs, c'est ce qui fait le succès de ce rachat-là.
Tout à fait,
parce que c'est rare que des sociétés étrangères, quand elles achètent des studios hollywoodiens, généralement, ils se plantent tous. Hein. Mm. En France, on a eu quelques cas de boîtes françaises qui ont racheté des studios, dont je tairai le nom. On en a eu plusieurs même, et ça a coûté très cher. Donc Sony, c'est une réussite de ce point de vue-là en termes de management, en laissant les gens en Californie faire leur business.
Voilà pour ces annonces PlayStation 5. Évidemment, on est tous très impatients de pouvoir tester tout ça. L'autre gros morceau de l'actu de la semaine, c'est bien entendu les annonces Apple que vous avez peut-être suivies sur 01net.com, mais aussi sur 01TV, puisqu'on retransmettait cette keynote une keynote en demi-teinte, on va dire, puisque évidemment, ce qu'on attendait n'est pas arrivé. on n'a pas eu un mot sur les nouveaux iPhones. Hein,
non, pas un seul mot. Effectivement, c'est la première fois qu'il y a une keynote de septembre sans iPhone dans l'histoire d'Apple. Alors évidemment, l'iPhone est reporté à cause Covid, hein, certainement au niveau des délais de production. Donc, a priori, il y aura une keynote en octobre pour présenter spécifiquement l'iPhone 12. En attendant, on a eu droit à l'Apple Watch Series 6, une Apple Watch SE aussi, qui est une sorte de repackage de l'ancienne version, un petit peu comme on fait avec l'iPhone, un iPad 8e génération, un iPad Air au look d'iPad Pro, et puis des nouvelles offres de services aussi. Donc voilà, sur l'Apple Watch, pour résumer, on a par exemple comme nouveauté le mesure du taux d'oxygène dans le sang, de nouvelles couleurs, voilà, bleu, rouge, or, des nouveaux bracelets. Elle est dispo à partir de 429 €, et l'Apple Watch SE, elle est dispo à partir de 299 €. Et c'est intéressant parce qu'Apple fait une sorte de gamme de watch, puisque la Watch 3 est toujours au catalogue à seulement 219 €. Donc on voit que ça commence à être vraiment abordable. Au niveau de l'iPad Air, donc on a vraiment un look proche de l'iPad Pro avec les bords arrondis. Alors surprise, il n'y a pas de Face ID. C'est un Touch ID qui est inclus directement dans le bouton d'alimentation, enfin de verrouillage. Mm-hmm. Donc,
c'est une première.
Ouais. Et on s'interroge d'ailleurs un petit peu sur l'avenir du coup de Face ID, parce qu'on se dit peut-être que cette solution, elle est aussi pratique. Et on n'a pas à mettre un iPhone, ça évite en plus d'avoir une encoche, etc.
Surtout depuis qu'on porte tous des masques.
Alors c'est galère, hein, quotidien.
Franchement, je suis persuadé qu'Apple doit réfléchir en fait à une double authentification Face ID plus Touch ID.
Il y a des chances, ouais.
Le problème, c'est qu'évidemment, ça augmentera la note du téléphone, parce que ça ferait un composant supplémentaire.
Ou à voir s'ils n'abandonnent pas purement et simplement Face ID. Hein. Ça permettrait aussi d'arrêter d'avoir cette encoche sur les téléphones.
C'est clair.
Effectivement. Ouais. Mais alors, par contre, l'iPad Air, lui, a une très très grosse nouveauté, qui est le processeur A14 d'Apple. Donc c'est D'habitude, on a ce nouveau processeur dans les iPhones. À chaque fois, il est introduit avec les iPhones. Mais là, vu qu'il n'y a pas d'iPhone, il est introduit avec l'iPad Air. Il est disponible à partir de 669 €. Et puis, il y a de nouveaux services aussi. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a notamment le service Fitness Plus qui est à 10 $ par mois et qui permet d'avoir un ensemble de cours de gym qui ont l'air assez poussés, qui s'adaptent à tous les niveaux de chacun. Pour l'instant, il est seulement dispo dans les pays anglo-saxons, en revanche. Et puis, cette offre groupée Apple One, dont on a parlé beaucoup pendant plusieurs semaines. Donc on va pouvoir par exemple s'abonner à Apple Music, à TV+, Apple Arcade, 50 Go de stockage iCloud à 15 € par mois. Donc on voit que c'est une offre assez agressive, et d'ailleurs ça fait râler Spotify qui juste après la keynote a dit c'est anticoncurrentiel. On sait que Spotify a porté une plainte contre Apple
auprès de l'Union Européenne. Ce coup de gueule de la part de Spotify.
Oui, tout à fait. Oui.
Bah, franchement, bah, Apple, ce que tu en penses, Emmanuel, mais enfin, ça peut mettre en danger le modèle de Spotify, en tout cas pour les abonnés Apple.
Oui, c'est clair. Alors en plus, bon, moi je pense que c'est un moyen de cacher quand même des échecs de la part d'Apple, notamment dans Arcade.
Ah oui.
Que personne n'utilise quasiment. Moi, je ne connais personne qui l'utilise.
Non, non.
Et Apple TV+, qui est tellement indigent en termes de catalogue, il n'y a quasiment rien pour avoir essayé. On en fait vite le tour. C'est pas un Netflix.
Bien sûr.
C'est
pas un quasi Amazon gratuit d'ailleurs, hein, puisque à partir du moment où on achète un iPhone, on produit Apple, on l'a gratuitement pendant un an.
C'est donc, ça.
Voilà.
Et je pense que les mettre tous ensemble, c'est camoufler, à mettre un peu la poussière sous le tapis.
La poussière sous le tapis.
Parce que Apple Music, pour le coup, se porte plutôt bien.
Donc
la musique fonctionne bien. Mais en mettant tout ça ensemble, on se dit, tiens, peut-être que ça peut relancer Arcade et Apple TV+. Voilà, donc
mais c'est tenable de la part d'Apple par rapport à ce que dénonce Spotify.
Alors, ce que dénonce Spotify, c'est pas tant qu'il y ait une offre groupée que le fait que Apple la pousse de manière agressive sur ses terminaux et dans ses offres commerciales, et que Spotify ne jouit pas de la même mise en avant d'une certaine façon. C'est un peu comme dans Carrefour où vous avez les têtes de gondole là.
Oui, bien sûr.
Et c'est comme si Apple se réservait toutes les têtes de gondole parce que c'est lui-même le Carrefour et qui mettait ses meilleurs produits au vu
et qui mettait Spotify en dessous, en bas, à côté de l'ascenseur.
Ou sinon Spotify doit payer pour remonter un peu. Donc effectivement, on peut comprendre que cette intégration verticale de distributeurs et de créateurs de contenu, de plateformes de contenu, crée un vrai problème, surtout quand on est en position dominante dans la téléphonie oui. mobile avec puis, deux acteurs seulement. Donc,
Et puis il y a aussi peut-être aussi un problème de distorsion commerciale parce que à 15€, le service d'Apple Music ne coûte plus 10€ finalement.
Ah non, c'est 5€ de plus qu'Apple Music.
Voilà, ouais. C'est ça aussi le problème, c'est que l'offre concurrente de Spotify est à 10€.
Oui.
Voilà, ouais. Donc il y a peut-être aussi ce problème-là.
C'est ça. Et puis la commission, Apple se la reverse, de toute façon. La commission de 30%,
oui, c'est ça. Voilà.
Ils se la prennent de la poche droite, ils se la mettent dans la poche gauche. Donc,
je ne suis même pas sûr qu'ils se la prennent.
Parce que non, finalement, si, je pense qu'ils sont obligés de la prendre. De concurrence,
justement. Ah oui, ouais. Parce qu'en plus, c'est ça, les services tiers, comme ils avaient cette commission de 30%, souvent, si on s'abonnait via son compte Apple, le prix était plus élevé que si on s'abonnait directement auprès de Spotify. Ouais. Donc c'était vraiment compliqué pour...
Emmanuel, concernant les annonces Apple, pas d'iPhone, c'était prévisible.
On en avait parlé il y a quelques semaines, un analyste, Jean-Sébastien, avait très bien repéré l'analyste qui avait dit il n'y aura pas d'iPhone 12 à la keynote. Donc il avait une nouvelle fois raison.
Exactement. Voilà.
Donc de ce point de vue-là, alors les marchés ont peu apprécié, puisque le titre a un peu dégringolé pendant la keynote, ce qui est généralement c'est l'inverse, le titre monte quand il y a une keynote. En revanche, là vraiment avec le fitness notamment, on voit l'accélération dans les services. Oui. Juste, il faut réaliser qu'il y a un an, Apple faisait à peu près 10% de son chiffre d'affaires dans les services. Aujourd'hui, c'est 20%. Donc après, quand il lance Apple One avec tous ses services mis en commun, donc bundlés comme on dit, et puis des services qui sont à la limite de la santé et du bien-être, parce que si on va du côté santé, du coup, il faut des autorisations de la FDA aux États-Unis. Donc ils font attention de pas aller trop dans le médical. Ils mettent un peu un orteil dedans, mais pas trop. Donc ils restent sur la frontière du bien-être, parce que là, il n'y a pas de contrainte de régulation. On fait à peu près ce qu'on veut. Mais on voit bien qu'ils accélèrent sur les services avec cet abonnement à 9,99€.
Ouais,
c'est ça par mois.
Tout à fait.
Et on voit la stratégie de Tim Cook de basculer tout doucement avec l'iPhone qui se vend un peu moins bien, même si là ça a rebondi ces derniers temps, basculer vers un Apple vraiment une force de frappe dans les services.
Donc on attend un nouvel iPhone dans un mois, si tout va bien. Ça doit être quand même assez j'imagine ceux qui travaillent avec la supply chain d'Apple du côté de Shenzhen, ça doit être assez costaud là quand même.
Ça va être sympa à gérer cette année.
Ça doit être vraiment mais passionnant même à vivre parce que avec toutes les contraintes qu'il y a eu, puisque plus aucun ingénieur ne pouvait aller en Chine par exemple.
Je crois que
c'est toujours le cas d'ailleurs.
Je pense.
Donc imaginez faire ça à 10 000 ou 15 000 km, ça doit être un truc de dingue.
Avec le décalage horaire et tout.
En plus, avec le décalage horaire, voilà. On enchaîne avec la 5G. Alors ça, gros sujet aussi, parce que là, tout se joue en ce moment. Là, on est dans une période vraiment charnière de la 5G en France. On va essayer de tout vous expliquer. Jean-Sébastien, où en est-on ?
Oui, alors on en est que le débat continue. Cette semaine a été encore agitée en matière de débat, parce que ce sont d'abord les élus de gauche et écologistes, parmi lesquels Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient publié une tribune dans le journal du dimanche dernier, demandant un moratoire tout simplement sur la 5G. Donc en gros, ils proposent un débat démocratique jusqu'à l'été 2021 et ils demandent également que la priorité soit mise sur la réduction de la fracture numérique en fait, avant la 5G. Et pour eux, ils pensent que l'ouverture des enchères intervient sans étude d'impact climatique et environnemental et aucune consultation publique préalable. Donc c'est ce qu'ils avancent comme argument. Mais quelques jours après, c'est un rapport qui a été remis au gouvernement qui compile les données de 26 pays dans lesquels la 5G a déjà été lancée. Et ce rapport estime que l'augmentation de l'exposition aux ondes devrait être assez modérée par la 5G et n'a pas d'effet néfaste à court terme. Donc on attend quand même le rapport de l'ANSES, qui est très très attendu, l'autorité de santé, qui sera publié au premier trimestre 2021 et qui lui fera certainement référence et essaiera peut-être de clore les débats ou en tout cas de les calmer un petit peu, mais c'est pas sûr.
Ça réglera pas tous les problèmes.
Je pense pas non plus.
On sait qu'il y a des gens qui contesteront cette étude d'une manière ou d'une autre.
L'ANSES eux-mêmes disent qu'ils n'ont pas nécessairement un avis définitif sur tout.
Bien sûr, parce qu'on
est dans un domaine naissant.
Évidemment. Voilà. Et c'est jamais des avis tranchés en plus, ces études-là.
C'est
plutôt des recommandations ou des choses comme ça.
Et puis c'est sur des recherches en cours aussi, sur des phénomènes nouveaux. Donc,
et l'étude de l'ANSES évoquera en fait les ondes millimétriques de la 5G.
Il y a les deux. Là, parce qu'on va parler des enchères qui arrivent donc le 29 sur la bande de fréquence des 3,5 gigahertz. Et effectivement, après, il y a les ondes millimétriques qui sont sur des fréquences beaucoup plus élevées, sur du 24 ou 26 de mémoire.
26 gigahertz,
c'est ça. Et les ondes millimétriques, alors là, pour ceux qui... C'est, de ce que j'ai compris, c'était dans les mêmes zones de fréquence que votre four à micro-ondes. Donc tout de suite, vous voyez, ça peut faire peur. Et l'autre chose, c'est sur des fréquences qui sont élevées, elles ne portent pas très loin. Elles portent loin, mais en revanche, elle ne pénètre pas les bâtiments, elle ne pénètre pas très bien la peau. Donc on peut dire qu'on n'est pas exposé, on est moins exposé sur des fréquences hautes. En revanche, il va falloir mettre des antennes. Alors c'est là où je pense qu'il va y avoir un débat, et c'est là où, à mon sens, il faudrait qu'il y ait un débat, ce qu'on appelle des small cells, c'est-à-dire qu'après les grandes antennes que vous voyez un peu partout, dans les grandes villes qui couvrent...
Oui, qui sont sur les points à eau,
voilà, exactement,
qui couvrent la 4G tous, ou la 3G.
Voilà, qui fera la même chose pour la 5G. Il faudra densifier le réseau dans certaines villes, dans des villes denses, avec des petites antennes, qui sont à hauteur, en gros, d'un abribus.
Ce qui est déjà le cas pour la 4G. Hein. Il y a plein d'endroits, en fait, vous prenez par exemple un centre commercial, il y a des mini-antennes 4G qui sont un peu disséminées partout.
Alors, généralement, c'est des répéteurs, là, pour le coup.
D'accord.
C'est-à-dire, ça répète le
signal.
Le signal pour pas que, effectivement, vous le perdiez quand vous êtes en ce qu'on appelle en deep indoor ou en indoor, c'est-à-dire dans des zones avec des murs ou vraiment dans un sous-sol ou dans un parking. Donc, il faut mettre des répéteurs pour... amplifier le signal. Là, c'est vraiment des antennes qui elles-mêmes émettent, hein, pour le coup, et qui émettent ça sera à peu près à hauteur de tête ou un peu plus haut en gros, mais dans des bandes de fréquences très élevées. Et ça, c'est un nouveau marché pour les équipementiers. Ils aimeraient bien vendre un maximum de ces petites cellules. Et c'est vrai que ça peut poser des questions, parce que on peut éventuellement les voir fleurir un peu partout, en dehors des grandes antennes qu'on voit déjà aujourd'hui. Donc, effectivement, on peut se poser des questions. Enfin, c'est légitime de se poser des questions.
Bien sûr, tout à fait.
En revanche, moi, c'est vrai que...
Surtout sur le 26 GHz.
Hein. Surtout sur le 26 GHz. Parce que effectivement.
Après, ce ne sont pas les mêmes puissances du tout.
Non, c'est-à-dire que c'est pas les mêmes voltages.
On compare, on dit, voilà, c'est la même fréquence que le micro-ondes. Alors, je ne vais pas les vérifier. Il faut déjà vérifier cette information.
Oui.
Et puis, évidemment, ce n'est pas du tout la même puissance. C'est infinitésimal.
Oui.
Voilà.
Ouais,
et je pense que quand on reste devant son micro-ondes en train de voir sa tasse tourner, on se prend plus d'ondes du micro-ondes que de la 5G à 26 GHz, je pense.
Alors, je ne dis pas que ce sont des fréquences micro-ondes, hein. Je dis que c'est dans les mêmes...
Oui, dans les
dans
voilà,
le même spectre.
Dans le même spectre.
Donc, il y a une caractéristique qu'on oublie aussi, c'est que sur la 5G, il va y avoir des systèmes de beamforming, comme on dit, qui va directement envoyer le signal sur les appareils et qui, en fait, n'arrose pas tout l'environnement, en fait. Donc,
on a des arguments qui sont contradictoires.
Voilà.
Il y a l'argument de dire, en termes d'énergie, bah ça consomme moins, parce qu'en fait, l'antenne va viser les terminaux.
Oui.
Donc, s'il y a deux terminaux couverts par l'antenne...
Et puis, elle s'éteint toute seule si personne ne la sollicite.
Voilà, exactement. Si elle ne voit pas dans son environnement un terminal 5G, elle se met en veille. Effectivement, elle s'endort d'une certaine façon. Donc là, au niveau énergétique, on peut se dire, c'est pas si mal. Et puis, d'un côté sanitaire, on peut se dire, oui, mais moi, si j'arrive avec mon téléphone et que l'antenne me voit et me vise... et qu'elle m'envoie le flux en direct, on peut se dire, effectivement, ça fait un peu peur.
Oui.
Bon, voilà. Alors, la réponse, c'est de dire, c'est ce que disait le président de l'ARCEP, c'est que là, quand vous avez un terminal 5G, vous savez que vous êtes visé par l'antenne et vous choisissez d'être visé. Donc, c'est un argument comme un autre. Mais on peut avoir aussi, d'un côté, ça peut contenter les gens sur le côté environnemental et énergivore, puis de l'autre, ça peut apeurer des gens au niveau de la santé. Donc, à chaque fois, c'est des équations avec plusieurs inconnus, et c'est pas évident de répondre à tout le monde de manière...
Avec évidemment beaucoup de fake news, beaucoup
aussi,
de choses qui n'ont strictement rien à voir. Et alors donc, ce moratoire a été, on va dire, retoqué par le gouvernement et Emmanuel Macron.
Oui, tout à fait, puisque les enchères sont maintenues, comme le disait Emmanuel. Donc pour l'instant, ce qui va faire référence, ça sera certainement ce rapport de l'ANSES et ce rapport qui a été remis au gouvernement sur l'étude des 26 pays, je ne sais plus exactement, qui montre qu'il n'y a a priori pas vraiment, pour l'instant, de ce qu'on en sait, d'impact sur
la population. Il paraît qu'Orange serait dans les starting blocks pour lancer une offre commerciale.
Ah oui, ils ont dit de mémoire, en décembre, ils allaient couvrir déjà quelques villes, effectivement. Ouais. Mais l'erreur, c'est une erreur politique, en fait. C'est que le gouvernement, à aucun moment, n'a ouvert de débat. Et aujourd'hui, ça lui revient au boomerang.
Bien sûr.
Donc, parce que c'est pas aux opérateurs de lancer un débat, puisqu'on va les...
Non.
On va dire qu'eux sont jugés partis.
Et bien sûr.
C'est pas à la Fédération Française des Télécoms, on va dire qu'ils sont jugés partis. Donc c'est compliqué, c'était au gouvernement de mettre ça sur la table avec des citoyens, ça n'a pas été fait, et aujourd'hui, le résultat est sur la table, on le voit.
On enchaîne avec un futur téléphone 5G. Donc je ne sais pas trop on captera beaucoup de 5G sur le nouveau Google Pixel 5, mais en tout cas Google s'apprête à sortir pas mal de choses, dont un nouveau téléphone.
Tout à fait, donc le Pixel 5 qui sera son téléphone star avec donc de la 5G intégrée. Et ce n'est pas le seul, puisque le Pixel 4a qui est déjà en précommande.
Il ne fera pas micro-ondes aussi. Hein.
Alors il ne fait pas micro-ondes.
Non,
après peut-être qu'on en achète plusieurs et en les mettant.
Voilà, c'est ça.
Mais Donc il y a ce modèle-là, le Pixel 4a qui existe déjà en précommande en version 4G, qui sera certainement aussi décliné en version 5G lui également. En plus de ces téléphones, on les connaît jusqu'à présent, les Pixels sont excellents notamment en photo, ils sont très bons grâce aux algos de Google. En plus de ce téléphone, il y aura certainement aussi cette Chromecast qui est très attendue, donc ce boîtier TV, avec cette fois-ci une télécommande, donc on n'aura plus besoin d'avoir son smartphone pour pouvoir envoyer du contenu sur son téléviseur, avec certainement une vraie interface, la possibilité d'installer des applications Android TV, donc concurrent total de l'Apple TV, et puis aussi une nouvelle enceinte qui sera, elle, commercialisée sous le nom Nest, on sait maintenant que c'est cette marque-là qui est utilisée par Google pour ses enceintes intelligentes, qui a l'air sympathique, il y a des images qui ont fuité, qui permet notamment d'être placé soit horizontalement, soit verticalement, en fonction de l'usage qu'on en a. Ce serait donc les trois gros produits de cette conférence qui aura lieu le 30 septembre et a priori que des produits, hein, puisqu'on sait que c'est la conférence référence de Google en termes de hardware.
Ce qui est amusant, c'est que pour revenir à Apple, Google communiquait toujours après la keynote Apple.
Oui.
Et là, cette fois-ci, sans doute qu'on va se retrouver avec des annonces qui seront faites avant la découverte de l'iPhone d'Apple. C'est assez étonnant.
Oui, sachant que pour l'instant, Google n'a pas vraiment percé non plus.
Évidemment, on n'est pas dans la même cour. On ne joue pas dans la même cour, bien sûr.
Effectivement, ouais.
Mais bon, c'est assez savoureux. Pour terminer, une information économique, mais qui, évidemment, est intimement liée à la tech. C'est Nvidia qui rachète la pépite ARM.
Tout à fait, c'est l'info business de la semaine, comme tu disais. C'est vraiment un rapprochement de deux immenses acteurs du monde de la tech. Hein. Nvidia a donc déboursé 40 milliards de dollars pour acheter ARM, dont 21 milliards en actions. Il l'a racheté auprès du japonais SoftBank, qui possédait ARM jusqu'à présent. Donc Nvidia, vous connaissez, hein, ils consomment notamment les cartes graphiques qu'on a dans tous les PC pour le gaming, etc. Mais pas seulement. ARM met aussi au point l'architecture des puces modernes qu'on trouve dans les smartphones, dans les objets connectés, dans certaines consoles, dans la Switch par exemple, dans les voitures aussi également. Entre la course aux performances de Nvidia, qui est vraiment très fort sur ce point, et le savoir-faire en économie d'énergie, on va dire, d'ARM, c'est une coopération qui quand même risque de faire des étincelles. Nvidia, en plus, pèse de plus en plus dans tout ce qui est intelligence artificielle. Et les sociétés ont d'ailleurs déjà annoncé qu'elles allaient mettre au point un supercalculateur à Cambridge, en Angleterre, qui est le siège social d'ARM, qui est une société britannique. En gros, l'objectif, comme disaient deux patrons, c'est vraiment de créer quelque chose d'assez unique dans le monde des semi-conducteurs. C'est pas de mettre forcément en commun complètement leur savoir-faire, mais vraiment d'arriver à compléter chacun des savoir-faire par celui de l'autre. Donc on a hâte de voir ce que ça peut donner en matière d'évolution des puces ARM, d'intelligence artificielle, de gaming. Ça peut être une association très fructueuse en tout cas.
Voilà, une transaction à 40 milliards de dollars. Nvidia rentre dans la cour des grands là, hein, d'un coup, avec cette acquisition.
Il était déjà, mais là c'est vrai que ça, il change de dimension pour le coup. Et surtout, c'est le monde de demain, comme le disait Jean-Sébastien. C'est l'intelligence artificielle, les voitures autonomes.
C'est la puissance de calcul.
C'est la puissance de calcul.
On en a de plus en plus besoin.
Exactement.
Avec peut-être en ligne de mire l'informatique quantique, hein, qui est de plus
ça
en plus.
Peut, oui, alors c'est vrai aussi ce qui est troublant. On en revient toujours à Apple, mais ARM doit équiper les prochains MacBook, Mac. Donc ça veut dire que ça sera du Nvidia. Mais moi, pour autant, j'attends de voir parce que bon, je suis un peu dubitatif sur cette opération parce qu'en fait, ça suscite en fait beaucoup de problèmes de souveraineté. C'était la dernière un peu pépite technologique en Europe qui est en train de basculer aux États-Unis au moment où on dit qu'il faut qu'on soit très puissant, qu'on ait nos propres solutions en Europe, que la Commission européenne laisse faire et que les Britanniques laissent faire. C'est un peu troublant quand même parce que ARM, c'est vraiment un des derniers fleurons quand même, hein, de la high-tech européenne. Ouais. Donc le laisser partir aux Américains, on peut se dire est-ce que c'est vraiment bien pour l'avenir de l'Europe? On peut se poser la question. Et puis deuxième élément...
Cela dit, l'Angleterre et l'Europe, ça devient de plus en plus compliqué.
C'est vrai aussi, c'est plus totalement l'Europe.
Il y a beaucoup plus d'acquaintances maintenant entre les US et l'Angleterre que finalement l'Angleterre
vrai,
et l'Europe.
C'est vrai.
Hein.
Et alors, c'est vrai, sauf que la Commission européenne doit donner son avis quand même jusqu'au 31 décembre 2020.
Ça va prendre 18 mois cette acquisition.
Et c'est là où il peut y avoir un autre souci, c'est qu'il se trouve que ARM a une joint venture en Chine, puisqu'ils sont obligés d'être en joint venture pour le marché chinois, et ils équipent Huawei, indirectement Oppo, toutes les grandes marques chinoises de téléphonie mobile. Et si demain ça devient américain et que Trump dit vous arrêtez, Nvidia arrête d'exporter les technologies ARM en Chine, c'est toute l'industrie des smartphones chinois
qui tombe.
Ouais. Et donc la Chine est
et
en train de
dire... milliards de revenus qui disparaissent pour ARM.
Voilà. Et vous pouvez tuer, Trump peut tuer ARM. La high-tech,
bien sûr.
La high-tech chinoise. Quoi, donc les autorités de Pékin, qui vont devoir donner leur autorité, commencent à dire on va vraiment regarder de près cette opération. Donc je pense qu'il va y avoir quand même des remous du côté de la Chine.
C'est pas fait encore.
Voilà. Donc ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas, mais je pense que ça va être plus compliqué qu'on ne le pense. Ouais.
Passionnant tout ça.
Tout à fait.
Merci à tous les deux. Merci Jean-Sébastien Zanqui, Emmanuel Paquette pour toujours tes analyses très fines.
Merci.
Évidemment, on peut lire Jean-Sébastien sur 01net.com. Ce de quoi je me mêle se poursuit dans un instant. On va parler du paiement. Alors le paiement sur mobile, sur montre, sur objet connecté, mais aussi avec la bonne vieille carte. Vous verrez que ce paiement évolue avec le sans contact et surtout comment va-t-il se transformer dans les années qui viennent. On en parle avec mon invité, je reçois le porte-parole du groupement carte bancaire CB. A tout de suite.
RMC 01TV, François Sorel, de quoi je me mail.
La suite de ce De quoi je me mail, le dimanche matin sur RMC, mais aussi sur la chaîne 01TV sur les box, sur évidemment YouTube et sur 01nettv.com. On va maintenant parler d'un sujet passionnant et vaste. Il s'agit du paiement. Vous l'avez remarqué, le paiement évolue. Perso, moi je n'ai plus de pièces, j'ai plus de billets. Aujourd'hui, je paye avec ma carte. Alors au début, on payait avec un code bancaire pour, on va dire, valider une transaction. Maintenant, il y a le sans contact. Et puis... il y a le mobile qui est arrivé. Aujourd'hui, on peut payer avec son mobile, avec Apple Pay, avec d'autres systèmes aussi concurrents, et on peut même payer avec d'autres objets connectés comme une montre. Mais jusqu'où va aller ce paiement dématérialisé ? Comment tout ça va évoluer ? Est-ce que demain, on pourra payer simplement avec des systèmes biométriques, comme par exemple le visage ou la voix, ou l'empreinte digitale, tout simplement ? Eh bien, on va en parler avec mon invité. Loïs Moulin est dans ce studio. Bonjour Loïs.
Bonjour François.
Vous êtes directeur du développement chez Carte Bancaire CB. Voilà, on a tous une carte bancaire, plus ou moins, on a tous une carte forcément pour payer, avec des couleurs différentes, des logos différents, etc. Et vous êtes au cœur en fait du réacteur du paiement en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que c'est vrai que ce logo carte bancaire CB, on le voit, mais on ne sait pas trop forcément ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites et qui vous êtes en fait ?
Tout à fait. Donc ce logo, c'est ce fameux CB blanc sur fond bleu-vert que tous les Français connaissent, parce qu'ils le voient chez les commerçants, sur Internet et sur leur carte. En fait, c'est le système de paiement par carte français, de paiement par carte et aujourd'hui par mobile, qui a été créé en 1984 sous l'impulsion de Pierre Bérégovoy avec les banques françaises pour créer un système qui soit souverain en France, et pas simplement un système étranger. À l'époque, il y avait déjà Visa et Mastercard.
Donc il y avait déjà Visa et Mastercard.
Tout à fait, c'était très marginal, mais ils étaient déjà présents.
On payait à l'époque, la plupart des Français payaient par chèque ou par cash.
Tout à fait. La carte en 84, j'ai regardé les chiffres, c'était moins de 1% en valeur des dépenses de consommation des ménages. Aujourd'hui, c'est quasiment 60%. Et donc, carte bancaire CB, c'est un groupement d'intérêt économique qui rassemble les banques françaises pour organiser le fonctionnement de ce système en France, les normes techniques, les règles, la lutte contre la fraude et le développement marketing et technologique de ce moyen de paiement.
Avec une invention française.
Tout à fait.
Qui arrive dans les années 80.
Tout à fait.
Et que l'on doit au génial Roland Moreno, qui est l'inventeur de la carte à puce.
Tout à fait. Roland Moreno dépose un brevet sur la carte à puce. Un grand industriel français s'en empare, ses bulles, pour le transformer en produit technologique. Et dans la vision de Pierre Bérégovoy, il y avait la volonté de valoriser cette filière technologique et industrielle. Et en fait, les champions mondiaux d'aujourd'hui sur la monétique s'appelle Worldline, Ingenico, Thales, Idemia. Dans les années 90, ils s'appelaient Gemalto, Schumberger, Gemplus, Oberture, Ingenico déjà, Dassault Electronic System et Sligos. Et donc par le mécanisme des fusions, des concentrations, ils ont changé de nom, se sont rebrandés, mais ce sont quand même des champions d'origine française. Et donc une vision, on peut saluer la mémoire de Pierre Bérégovoy, une vision qui s'est réalisée à la fois sur l'instrument de paiement, qui est devenu le moyen de paiement préféré des consommateurs, et sur sa vision industrielle.
Mais c'est génial, cette carte à puce, en fait, elle est partout. Elle est sur les cartes bancaires, elle était sur les cartes téléphoniques quand on était petit.
Tout à fait.
Elle est aujourd'hui dans les téléphones portables, parce qu'une carte SIM, c'est une carte à puce.
Tout à fait.
C'est une réussite française, mais qui a, on va dire, un retentissement mondial aujourd'hui.
Tout à fait. Nous, on a été le premier pays à développer la carte à puce pour les cartes bancaires. Ensuite, l'Europe s'y est mise, et maintenant le monde entier s'y est mis.
Les USA s'y sont mis très tardivement, il y a encore quelques années.
Voilà.
Et d'ailleurs, certaines transactions se font encore avec la puce magnétique.
Tout à fait. Aujourd'hui, aux États-Unis, le paiement par carte à puce n'est pas encore totalement généralisé. C'est encore la puce magnétique.
C'est dingue. Alors que ça apporte évidemment, parce que la clé de tout ça, c'est plus de sécurité. Il est plus compliqué de pirater une carte à puce qu'une puce magnétique, j'imagine.
Tout à fait. La fraude a considérablement baissé grâce à la carte à puce en France, et elle continue à baisser également en commerce électronique par d'autres moyens. Mais effectivement, à l'époque, dans les années 80, il y avait le fameux phare à repasser. Bon, là, il n'y avait même pas de piste magnétique. Après, il y avait la piste magnétique où on signait simplement son reçu. Et en fait, la puce, c'était la puce et le code confidentiel auquel on a habitué les Français. D'ailleurs, ça a pris un peu de temps pour déshabituer les Français du code confidentiel, pour les convaincre d'utiliser le sans contact.
Eh oui, mais on va en parler du sans contact, parce que c'est l'évolution naturelle.
Tout à fait, oui.
C'est pas fini. Moi, je me souviens du sabot. Hein.
Oui, tout à fait, le sabot.
Qui bousillait les cartes. On faisait 10 transactions avec un sabot. La carte bancaire, on pouvait la mettre à la poubelle. C'était un truc de
voilà,
dingue.
On disait, il faut surtout pas mettre les cartes bancaires dans les machines, parce que la piste magnétique va disparaître, il y a eu évidemment beaucoup de mises au point technologiques avec les industriels pour que tout ça fonctionne de manière très fluide, mais maintenant tout ça est très efficace.
Oui. Et puis les sabots n'existent plus, heureusement.
Le sabot n'existe plus, voilà.
Je suis persuadé qu'il y en a certains d'entre nous qui se souviennent de ces transactions un peu toujours aventureuses avec le sabot. On se dit, ah là là, est-ce que ma carte ne va pas être en deux morceaux quand elle va ressortir ? Alors on voit tout ça évoluer. Comment paie-t-on aujourd'hui, Louis Moin ? C'est quoi les clés du paiement en France ?
Alors en fait, on paye ce qu'on achète. Et en fait, la question peut-être d'abord, c'est comment on achète aujourd'hui et comment on achetait hier. Hier, on achetait essentiellement dans le commerce physique, un peu par catalogue, sur les catalogues de la Redoute. Maintenant, le commerce physique, c'est 90% du commerce en France. Le commerce électronique avec Internet, c'est 10%. Et en fait, dans chacun de ces univers, on paye principalement avec sa carte bancaire. D'une manière générale, la carte bancaire CB, c'est 60% des dépenses de consommation des ménages en 2019. Donc, en 84, c'était moins de 1%. En 2010, c'était autour de 45%, donc on a fait beaucoup de chemin. Mmh. Et sur Internet, la carte bancaire, c'est 90% des paiements sur Internet.
Le reste, c'est quoi ? C'est PayPal ? C'est d'autres systèmes de paiement alternatifs ?
Oui, alors ça peut être encore du chèque à la livraison. Parfois, vous pouvez payer par chèque à la livraison.
Ouais.
Ça peut être PayPal, mais sachant que même derrière PayPal, souvent, vous avez votre carte bancaire CB derrière.
Sauf si on a un RIB, parce qu'on peut mettre un RIB aussi.
Parfois, vous pouvez faire un peu de prélèvement ou de virement, mais en France, c'est marginal. Donc, et le 60%, le complément, c'est dans le commerce physique, c'est les espèces, au moins autour de 30%. Le chèque autour, encore de 10%, mais le chèque, il est de moins en moins utilisé. Les commerçants le refusent de plus en plus.
Et puis, pourquoi ? Parce que c'est le moins sûr, en fait.
Alors, c'est celui où il y a. Voilà, c'est à la fois le moins pratique, il y a beaucoup de manipulations,
oui,
ça prend du temps.
Oui, c'est chronophage.
Et c'est fraudé.
Il y a des risques.
Et puis, il y a eu aussi en 30 ans beaucoup de changements technologiques. Alors, il y a eu la puce, qu'il a fallu généraliser. Hein, la généralisation, c'est 90. Il y a eu le sans-contact introduit, donc, on va dire, premières expériences dans les années 2010, il a vraiment décollé en 2012. Et puis, pour Internet, au début, on saisissait simplement son numéro de carte et sa date d'expiration. Et puis, il a fallu apporter un peu plus de sécurité. On a commencé à parler de méthodes d'authentification.
Ouais.
Les premières, c'était vous saisissiez votre date de naissance. Ensuite, on a généralisé ce qu'on a appelé l'OTP, le mot de passe à usage unique par SMS que nous avons tous connu. Et en fait, maintenant, pour améliorer encore la sécurité, en fait, on est en train de déployer, les banques sont en train de déployer des nouvelles méthodes d'authentification qui s'appuient principalement sur le smartphone. Et donc, vous saisissez
avec
un code.
Avec la clé numérique, en fait.
Alors,
Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps.
Tout à fait. On est en plein milieu du déploiement. Moi, j'ai changé de méthode il y a un mois avec ma banque. D'autres ont commencé l'an dernier, etc. Voilà, et ça, ces nouvelles méthodes vont être généralisées avant la fin de l'année.
En gros, là, c'est pour les achats sur Internet. Hein.
Tout à fait.
Vous achetez quelque chose sur Internet, vous validez votre achat et vous recevez une notification sur le smartphone. Vous lancez. Vous êtes obligé de vous identifier sur votre appli mobile de votre banque.
Tout à fait.
De valider le paiement. Et là, paf, comme par magie, ça valide le paiement sur le site marchand.
Ça remplace l'OTP par SMS et en fait, vous validez votre paiement soit par un code confidentiel, soit de plus en plus par la vérification de votre empreinte digitale, voire votre reconnaissance faciale.
Voilà. Et ça,
si le smartphone,
des
systèmes à la fois des banques, les banques l'autorisent et que le smartphone puisse le permettre.
Tout ça pour réduire la fraude.
Oui.
D'accord. Malgré tout, la fraude existe encore sur Internet.
Il y a un moyen de paiement. Tous les moyens de paiement sont fraudés d'une manière générale. Il n'y a pas de risque zéro. En France, c'est le gouverneur de la Banque de France qui le disait. On a depuis très longtemps mis en place une concertation au sein de l'Observatoire pour que, en fait, l'ensemble des acteurs de l'écosystème, les banques, les commerçants, les associations de consommateurs, la Banque de France, quelque part, réfléchissent aux moyens de faire baisser la fraude. Et en fait, la fraude, elle est devenue très marginale en paiement de proximité grâce à la puce. Même avec le sans-contact, elle reste très marginale. Elle reste encore élevée. On est autour de 0,16% en commerce électronique. Alors, élevée, c'est élevé pour les banques. Hein, c'est ceux qui supportent de la fraude.
Bien sûr, il faut savoir, et ça, vous faites bien de le préciser, il y a des assurances. Hein, à partir du moment où ce n'est pas nous qui effectuons l'achat et que c'est frauduleux, on est remboursé.
Le consommateur est totalement protégé par la loi qui instaure en gros un principe un petit peu dès lors que le consommateur est victime d'une fraude, c'est la banque qui va prendre le préjudice. Et en fait, cette fraude, la bonne nouvelle quand même, c'est que cette fraude sur Internet, elle baisse depuis, c'est la 7e année ou la 8e année consécutive, qu'elle baisse en valeur ou en taux d'abord, alors que le commerce électronique, lui, ne fait que croître en chiffre d'affaires.
Louis Moulin, on voit que, évidemment, ces modes de paiement évoluent. Le sans-contact, de plus en plus de Français l'adoptent. Et puis, il y a eu cette crise sanitaire, la Covid-19 qui est arrivée, où là, même, on a eu des communications gouvernementales, des officiels qui disaient, pour le paiement, privilégier le sans-contact, etc. Arrêtons le cash, arrêtons les chèques, voilà. S'en est suivi même tout un dispositif pour augmenter justement le plafond de paiement via le sans-contact. Est-ce que vous avez constaté un avant et un après Covid sur le paiement sans-contact ?
Alors, très clairement, oui. D'abord, il y a eu une accélération de l'utilisation de la carte, d'une manière générale. Alors, on n'est pas en mesure... D'une manière générale, la carte progresse chaque année, après année, dans les dépenses de consommation. Je disais 60% en 2019, on était à 58% en 2018. Donc, on va voir s'il va y avoir une rupture en 2020. Si on est à 65% en 2020, c'est qu'il y a une véritable rupture dans l'usage de la carte. Et dans l'usage du sans-contact, la simple augmentation du plafond a donné un gisement de volume supplémentaire. En fait, ce qu'on a constaté, le sans-contact, jusque mai, c'est entre 0 et 30. Avant le Covid, on est à 60% des paiements inférieurs à 30 euros en magasin sans-contact. Au jour d'aujourd'hui, on est à 70%. Donc, en quelques mois, on a pris 10%. Avant le Covid, aucun paiement sans contact entre 30 et 50 euros.
Et oui, forcément, on pouvait pas.
À partir de mai, parce qu'on ne pouvait pas, évidemment. À partir de mai, au moment où... à partir de début juin, au moment où on ouvre le système, on fait beaucoup de communication. Les banques font la communication, les commerçants font la communication. Et on est à 40% des paiements entre 30 et 50 euros qui sont payés en sans contact. Donc, il y a eu, en fait, un phénomène d'accoutumance extrêmement rapide des consommateurs. Ça veut dire que ça répondait à une vraie attente des commerçants et des consommateurs. Alors, entre 30 et 50 euros, c'est pas tellement par rapport au cash. C'est que, de toute façon, un paiement est confidentiel, le client touche un clavier,
bien sûr.
Le commerçant éventuellement touche votre carte physique, et donc voilà, il y avait la volonté de dire bah, il faut diminuer les occasions de toucher des surfaces sur lesquelles on n'a pas nécessairement une grande vigilance.
Et puis alors, c'est plus pratique, accessoirement.
Et c'est évidemment, le sans-contact, au début, il a surtout été introduit pour des raisons de praticité et surtout de rapidité.
Et de rapidité, bien sûr.
C'est, un grand distributeur avait l'habitude de dire qu'une seconde de gagner à la caisse, c'est grosso modo 1 million d'euros d'économiser annuellement. Voilà.
C'est dingue, voilà. Ce chiffre. C'est fou.
Parce que c'est le temps de passage aux caisses, les files des clients, etc. Donc le sans-contact, son premier intérêt, c'est la rapidité de passage aux caisses. Voilà.
Louis Moulin, aujourd'hui c'est 50 euros. Est-ce qu'on peut imaginer que ce plafond soit encore relevé tout en conservant, on va dire, une sécurité et un risque de fraude très bas?
Alors, le sans contact à 50 euros, c'est sans contact et sans code confidentiel. Donc ça, ça ne va pas bouger dans les prochaines années. D'autant plus qu'il y a un règlement européen qui fixe la limite des paiements sans validation porteur, sans code confidentiel, à 50 euros. Ce qui peut se passer, ce qui va se passer, c'est que vous avez déjà l'innovation sur laquelle on travaille d'ailleurs avec les industriels et les banques. C'est que vous avez une nouvelle carte qui arrive, qui est une carte où on embarque dessus un lecteur d'empreintes digitales. Et donc vous allez pouvoir payer sans contact en simplement posant votre pouce sur ce lecteur d'empreintes, sur la carte elle-même. Donc vous avez un geste unique.
D'accord.
Et là, vous pourrez faire des paiements sans contact pour tous les montants, puisque finalement, pour tous les montants, vous serez authentifié.
Et ça se substituera au code confidentiel.
Et ça se substituera au code confidentiel à 4 chiffres.
Mais voilà. Ça veut dire qu'il faut de la technologie dans cette carte bancaire.
Tout à l'heure, je parlais de la filière industrielle. Et ben, en fait, on travaille sur ce produit avec les mêmes, Idemia, Thales, depuis 3 ans. Effectivement, c'est un bijou, c'est un concentré de technologie, parce que vous avez une puce normale, vous avez un lecteur d'empreinte, un capteur qui doit être fiable pour
bien
que
sûr.
Ça puisse marcher.
Oui.
Donc, il y a eu plusieurs générations, et en 2020, vous avez des banques qui vont commencer à faire de l'expérimentation commerciale. Ces données, moi j'en ai une dans ma poche, mais c'est un prototype encore qui a un an. Là, des clients de banque vont pouvoir tester ce produit. D'ailleurs, certains l'ont déjà testé en début d'année. Et voilà, il faut le retour.
Quand, parce qu'on sait que c'est très long, le processus bancaire est très très long. Il y a pas, j'imagine, plein de validations.
Ça
a un coût aussi. Qui va payer cette carte?
Alors ça c'est le sujet pour les banques qui vont vouloir le mettre dans leur offre commerciale.
C'est plus cher qu'une carte traditionnelle.
C'est un bijou technologique, donc c'est une carte qui est effectivement en petite série plus chère. Donc dans un premier temps, c'est une carte qui va être plutôt sur des segments très petits de marché. Je pense que commercialement, elle sera au catalogue de certaines banques véritablement l'an prochain.
L'an prochain,
voilà.
D'accord.
Vous voyez, on a commencé à l'incuber avec Idemia et Thales il y a 3 ans. Donc il y a 3 ans de maturation technologique. Il fallait que les capteurs soient un peu plus fiables, etc. Et puis il y a un sujet aussi important, c'est que avant de payer, il faut enregistrer votre empreinte dans ce support. Et donc il faut que ça soit facile, sinon le consommateur ne va pas l'adopter.
C'est intéressant cette carte, on en reparlera parce que ça doit être un vrai bijou de technologie.
Et puis il y a le paiement mobile, vous pouvez payer en sans contact,
justement,
le montant.
J'allais venir, est-ce que le mobile est un concurrent pour vous ou un allié?
Ah non, le mobile, en fait, n'est qu'un support. En fait, dans lorsque vous faites un paiement mobile Apple Pay ou Paylib, à l'intérieur...
On passe par le groupe bancaire.
On passe par une carte bancaire sa marque. Voilà.
Pourquoi ne pas imaginer, en fait, pourquoi pas essayer de se débarrasser de cette carte plastique qui prend de la place, qu'on peut perdre je veux dire, est-ce que c'est dans les projets, en fait, de votre entreprise, de transformer cette carte, peut-être de l'avoir sur mobile, peut-être un jour de ne plus avoir de carte, et que, en fait, notre corps, ou avec certains indicateurs biométriques, on puisse payer?
Alors, ça dépend à quel horizon on se projette. D'une manière générale, on voit les habitudes des clients pour utiliser un nouveau moyen de paiement ou un nouveau facteur de forme. C'est finalement la carte, le mobile, la montre connectée dont vous parliez tout à l'heure. Finalement, ça n'est qu'un facteur de forme.
Juste petite question là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui achètent avec leur mobile ou avec leur montre en France aujourd'hui. Alors, ou est-ce que c'est vraiment, on va dire, des happy few, des geeks
Alors, c'est encore très peu, très faible en termes de pourcentage. En gros, en 2018, la Banque de France communique des chiffres sur l'ensemble des paiements mobiles en France. Ça représentait 0,1% des paiements par carte.
Ouais. Bon, 2018, c'est un gouffre dans le monde de la tech.
Mais quoi, ça tout à fait. En 2019, ça a certainement été multiplié par 3 ou par 4. Les chiffres vont bientôt sortir. Donc, ça reste...
Mais c'est très faible.
Ça reste très faible, mais avec un très fort taux de croissance. Un taux de croissance à 3 chiffres. Donc, quelque part, ça va... Le sans-contact carte, au tout début, c'était très petit, ça a mis du temps à décoller. Bien là, sûr. On est un petit peu dans la même courbe d'apprentissage, où ça reste encore très marginal, mais un taux de croissance important. Donc, ça va certainement franchir le pourcent dans un an...
Là, et quand vous parlez de ce pourcent, c'est à la fois les montres et le mobile, ou c'est que les montres ?
Non, c'est le 1% ou le 0,1% de 2018. Ou le,
c'est le téléphone et la montre.
C'est tous les objets connectés, mais c'est surtout le téléphone, Apple Pay, Paylib, sur iPhone, etc. La montre, là, c'est effectivement le Geek ou le Happy Few. Ça existe, la montre connectée. En fait, la technologie permet de mettre dans n'importe quel objet montre, une bague...
Il y a une start-up qui propose le paiement par une bague, en fait.
À un moment, on parlait... Après, il faut avoir envie de choisir une bague. Qu'est-ce qui prime la bague ou le paiement ? Donc, ça va se développer. Il y a encore quand même une marge importante d'innovation pour la carte. C'est pour ça que je parlais de la carte avec l'empreinte digitale. Et je ne vois pas à 10 ans...
avez un intérêt économique, vous, à garder une carte ?
Non. Non, en fait, on a...
Vous touchez un pourcentage, c'est ça,
Alors, nous, on est un groupement d'intérêt économique. Donc, en fait, on n'est pas une entreprise commerciale.
D'accord.
On a été fondé sous ce statut. Donc, les banques nous donnent un budget pour faire tourner le système, la lutte contre la fraude, marketing, un petit peu de communication, etc. Mais on n'est pas directement intéressé. Voilà. En revanche, nous, ce qu'on regarde tous les jours, c'est l'évolution des volumes. L'évolution des volumes de transactions qui ont vocation à croître chaque année lorsqu'il n'y a pas de crise de la consommation des ménages comme il y a eu cette année.
Alors je reviens à ma question tout à l'heure. Le paiement de demain, c'est quoi ? Est-ce que demain, on pourra avoir certains indicateurs biométriques pour pouvoir payer et ne plus montrer un téléphone, une montre ou une carte ? Est-ce que c'est envisageable, ça ?
Alors, de toute façon, vous avez déjà la biométrie, vous allez pouvoir l'utiliser. Alors, demain, aujourd'hui, on va dire que c'est presque demain. On parle beaucoup. Alors, moi, j'aime bien un concept que j'aime bien. C'est ce qu'on appelle le commercial contextuel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la capacité à vouloir acheter dans n'importe quelle situation de la vie courante. Donc, imaginez, vous êtes dans votre voiture connectée. Et que vous voulez pré-réserver la distribution de carburant à la prochaine station-service ou tout simplement un panier repas également à la station-service, et bien vous allez pouvoir l'acheter, le commander dans votre voiture au volant et il va falloir que vous puissiez le payer. Et en fait, la biométrie vocale, la reconnaissance vocale va intervenir à la fois pour vous permettre de faire cette commande sans toucher votre smartphone.
Oui, je vais faire le plein à la station
voilà,
X
merci
à côté.
De réserver. Et vous allez également pouvoir dire je suis d'accord pour payer 30 euros de carburant. Ben ça, c'est déjà aujourd'hui. Avec le Lab by CB, on va lancer une expérimentation à une start-up française.
Donc la voix
comme instrument de reconnaissance.
Sécurité.
Oui, la voix, c'est de la reconnaissance vocale et également de la biométrie vocale.
D'accord.
On peut vous reconnaître grâce à votre voix. Alors après, il faut que ce genre de technologie soit accepté par les consommateurs. Les consommateurs ont déjà adopté l'empreinte digitale, sont en train d'adopter la reconnaissance faciale. La reconnaissance vocale va arriver assez vite. Après des biométries plus intrusives, la reconnaissance du pouls, etc.
Mais la reconnaissance faciale, on sait que c'est quand même très fiable. Est-ce qu'on peut imaginer demain, je passe dans ma petite supérette, je suis chargé, il faut que je pose mes trucs pour pouvoir payer ou avec mon téléphone ou avec ma carte. Est-ce que simplement, par exemple, en regardant une caméra, on pourrait dire, ok, c'est bien François Sorel, il valide son paiement et il s'en va sans rien faire d'autre. Est-ce que ça peut être un scénario du futur ?
C'est un scénario du futur, mais c'est déjà un scénario lorsque vous faites une transaction sur Internet, la fameuse authentification dont on parlait tout à l'heure. Parfois, si vous avez un smartphone de dernière génération, voilà.
Si on a configuré le Face ID ou le Touch ID,
vous reconnaît, et donc ça n'arrive pas encore dans le commerce physique, mais finalement, toutes les technologies sont là pour que ça puisse arriver. Il faut simplement, au-delà de vous reconnaître vous, il faut qu'avant vous ayez enregistré votre instrument de paiement, parce que le visage en français
sera... Une bonne fois pour toutes, et après
vous
ça apporte
faites,
un confort
voilà, et
phénoménal.
Après, voilà, en fait, il suffit d'avoir un objet personnel...
Qui va valider en fait,
voilà. Et puis après, on peut utiliser la biométrie faciale, la biométrie digitale comme outil de validation. Parce qu'il faut quand même que le client valide son opération de paiement.
Oui.
C'est un geste volontaire pour valider son opération de paiement.
Et montrer son visage ne suffira pas.
Non, il faudra, ou alors faut...
Regardez ce qui se passe aux États-Unis, c'est intéressant, avec Amazon qui essaie de faire des magasins où on ne paye plus. Enfin, on paye, mais la transaction, en fait, est tellement naturelle qu'on achète, on sort du magasin, à partir du moment où on sort, on paye. Vous y croyez, ça, c'est l'avenir ? Ou c'est du marketing à la sauce Amazon ?
Alors, c'est le concept des magasins autonomes, qu'a effectivement inventé Amazon. Alors, c'est d'abord... un mode de distribution commercial, ça va arriver en France. Il y a déjà une start-up française qui s'appelle Storelift qui propose un concept qui s'appelle Boxy. En fait, c'est dans un magasin autonome de petite taille dans lequel vous entrez, vous achetez et vous payez à la sortie. Alors vous payez en général en sans contact ou vous payez avec votre smartphone à la sortie.
La question Amazon, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'Amazon, je n'ai même pas à payer. En fait, je pense que le système vous reconnaît en rentrant, regarde ce que vous achetez, vous voit sortir, vous identifie et vous payez comme ça.
Mais parce que Amazon, en fait, vous avez beaucoup d'entre nous ont déjà, et aux US encore plus, en fait, se sont enregistrés, ont mis leur instrument de paiement qu'Amazon Prime, d'accord, etc. Donc, quelque part, vous avez un pré-enregistrement.
Oui, j'achète chez Amazon, en fait.
Vous achetez chez Amazon, effectivement. Alors, après, il y a, vous l'avez dit vous-même, il y a deux sujets. Il y a comment je paye, mais déjà, comment on établit le montant de mon panier. Et là, vous avez beaucoup de technologies qui arrivent, l'intelligence artificielle, avec ce qu'on appelle le computer vision, où en fait, c'est l'analyse des ordinateurs qui permettent de déterminer que vous avez soulevé tel paquet de céréales, l'a reconnu, l'a donc a calculé son prix et vous présentera la note parce qu'à la fin,
mais oui, bien sûr,
même si vous avez l'impression de ne pas avoir à payer, à la fin, il faut toujours payer, même chez Amazon.
Oui. Vous savez qu'à cause de vous, il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte qu'ils payent avec la carte, vous le savez. Vous avez créé des tensions dans les ménages, Louis Moulin. Ça sera le bout de la fin, d'ailleurs. Gentiment, bien sûr. Merci en tout cas. Merci pour toutes ces précisions. On voit que le paiement évolue. C'est passionnant comme sujet, parce qu'on paye tout au quotidien. Et demain, vous le verrez, on paiera sans doute différemment. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, François.
Ce de quoi je me mêle est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Merci de nous suivre à la fois sur RMC le dimanche matin, mais aussi sur YouTube, sur 01tv.com et sur la chaîne 01 TV sur les box. Portez-vous bien, bon week-end, à très vite.
De quoi je me mail sur RMC et 01 TV.